Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah. Je rapproche un peu. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azzawajal qui nous ouvre ce matin les portes d'acceptation pour être présent aujourd'hui dans cette assemblée religieuse de la maison d'Allah Azzawajal. Louange à Allah qui envoie ses malaïkas, ses anges à la recherche de ce genre d'assemblée. Louange à Allah qui connaît le nom de chacun d'entre nous présent ce matin dans cette assemblée. Et Allah connaît notre sincérité. Allah connaît nos efforts, Allah connaît nos sacrifices pour être présents ce matin. Et Allah Azza wa Jal cite le nom de chacun d'entre nous dans l'assemblée des malaïka. Toutes les louanges reviennent à Allah qui a promis de pardonner les péchés de chaque personne qui sont présentes dans cette assemblée. Dans une version de Imam Ahmad ibn Hanbal, il est mentionné qu'à la fin de l'assemblée, Allah Rabbul Izza promet de transformer les péchés de chacun d'entre nous en bonne action. C'est quand même quelque chose d'énorme, ça. C'est un hadith qu'on a peut-être souvent entendu, et même la notion de pardon des péchés, et ainsi de suite, il y a des fois où on l'entend tellement qu'on finit par considérer ça comme une, astaghfirullah, comme une banalité. Allah y pardonne, les péchés sont pardonnés. Mais si on essaie de prendre ce texte avec yaqin et conviction, on se rend compte que c'est énorme. Le prophète alayhi salat wa salam dit que ma jalasa qawmun majlisan yadhkurun Allah azza wa jalla fihi fayaqumun hatta yuqalu lahum qumu qad ghafara Allahu lakum wa buddilat sayyiatukum hasanat. Lorsque des gens se réunissent pour parler d'Allah, j'essaie d'identifier, est-ce que le hadith me concerne? Ça me concerne. J'ai quitté ma maison, je suis venu pour écouter la parole d'Allah azza wa jalla et on est là ensemble. Fayaqumun, et que l'assemblée se termine et que les gens se lèvent. Je pense que vous n'allez pas rester jusqu'à ce soir ici. Au bout de 40 minutes, on va se lever et chacun va retourner à ses occupations. Au moment où on se lève, c'est pour ça qu'il est bien de rester jusqu'à la fin. Au moment où on se lève, il y a un i'lan, il y a un message qui est délivré, c'est la promesse divine. Levez-vous, Allah Rabbul Izza vous a déjà pardonné et Allah a transformé vos péchés en bonnes actions. Hadith rapporté dans le Sahih al-Jami'. Donc toutes les louanges, remerciements à Allah Rabbul Izza qui nous permet de vivre un jour du mois de Ramadan de plus. Et je n'ai pas dit un mois de Ramadan, j'ai dit un jour de Ramadan, ce dimanche. Car mes chers frères et sœurs, chaque jour vécu dans ce mois de Ramadan, vraiment c'est un ni'ma, c'est un grand bienfait. Et nous devons en être reconnaissants. Mais vous savez, pour être reconnaissant, il faut avant tout en être, t'allumes une note, Mashallah, il déduit bien, et puis ça rime en plus, hein. Pour être reconnaissant, il faut avant tout en être conscient. Vivre un jour de Ramadan, mes chers frères et sœurs, c'est vivre et bénéficier d'un jour de Rahma. On a tous entendu dans les programmes de préparation du mois de Ramadan, ou là en ce moment, que le mois de Ramadan est le mois de Rahma par excellence. Allah Rabbul Izzah fait descendre sa rahma sur la Ummah de façon exceptionnelle. Et on sait que toute l'année, et je me permets une parenthèse pour saluer mon ami et mon frère Hudhaifa, j'allais dire radiallahu anhu, c'est un lapsus, mais qu'Allah soit satisfait de toi, c'est sorti tout seul, qu'Allah soit satisfait de toi, et le simple fait de le voir, ça remplit mon cœur de joie. Allah ibarik fik, qu'Allah nous réunisse dans le Jannah, inshallah. Je disais donc que vivre un jour de Ramadan, c'est vivre et bénéficier d'un jour de Rahma. Et comme on a dit que le mois de Ramadan par excellence, c'est le mois où Allah Rabbul Izza a beaucoup de clémence et de miséricorde pour l'ensemble des croyants. En temps normal, Allah Azza wa Jalla est clément. Et d'ailleurs, nous sommes censés le savoir et en être convaincus. Parce que au minimum dans une journée, pour un croyant qui prie, on dit combien de fois les deux noms d'Allah, Rahman, Rahim, j'ai compté, ça fait au minimum 30 fois quand on lit Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et en plus, je n'ai pas compté Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, je n'ai pas pensé. Le Bismillah d'avant le Fatiha et le Bismillah d'avant la Sourate. C'est-à-dire, on peut tripler, c'est-à-dire, au minimum, un croyant peut lire, peut dire 90 fois les deux noms d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est extraordinaire ça. Vous savez, dans tout ce qu'Allah décrète, dans tout ce qu'Allah nous demande de faire, de dire, de ressentir, quand Allah nous demande d'agir d'une certaine façon, il y a une sagesse divine. Si Allah décrétait, a légiféré, que nous devons prononcer 90 fois Rahman, Rahim au minimum par jour, c'est pour que vraiment la réalité de ces noms d'Allah pénètre nos cœurs. Et nous devons en être convaincus. Que lorsque je me réveille le matin, tu te réveilles à quelle heure? Faut pas dire. Ça c'est secret ça, Antoine, c'est une question piège. Antoine, tu vas voter pour qui? Faut pas dire non plus. Ça aussi c'est secret, mais c'est secret électoral. Quand on se réveille le matin, par exemple Bilal, c'est 2h15 du matin, subhanallah. Quand on se réveille le matin et que je fais mon tahajjud et que je fais dua, principalement, quand je commence mes dua, tout le monde commence par demander istighfar, on est d'accord. Parce que là, on se présente devant Allah, on sait qui on est. Hein. Heureusement, il n'y a que nous qui savons qui on est. Si on avait un scanner, je ne dis pas corporel, mais un scanner spirituel, et que je pouvais voir, astaghfirullah, les péchés et les taches noires sur le cœur de chacun, personne ne se ferait qu'entrer. Tout le monde dirait, mais attends, tu veux quoi toi? Tu es le plus grand pécheur, tu es plus pécheur que moi? J'ignorais. Et je ne peux pas te faire confiance, ainsi de suite. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal nous a caché nos péchés. Allah Azza wa Jal a caché les péchés des êtres humains, que personne ne connaît le fond de son prochain. Ainsi donc, le matin, quand tu implores ton Seigneur, tu demandes pardon, on doit être convaincu que nos mains sont levées, nos paroles sont orientées, nos cœurs se dirigent vers celui qui est Arhamur Rahim, clément et miséricordieux. Quoi que tu aies pu faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, comme péché, il y a eu des manquements, il y a eu des choses qu'on ne veut pas partager, qu'on a honte que les gens sachent, mais être conscient que on s'adresse à celui qui est Rahman Rahim. Et ça n'a pas de prix. Je veux dire que c'est un cadeau extraordinaire qu'Allah nous accorde de prendre conscience qu'il est clément et miséricordieux. Et dans le mois de Ramadan, si on compte la salat de Tarawih avec le nombre de Fatiha, ça nous ramène à 150 fois. Au moins, après, ceux qui font 12 rakats de tahajjud, qui font des nawafil, shuruk, ça j'ai pas compté. Mais au minimum, je dis, en ce dimanche, je vais dire au minimum 150 fois Rahman, Rahim. Il faut bien qu'à un moment donné, cette réalité pénètre le cœur. Mes chers frères et sœurs, vivre un jour de Ramadan, c'est vivre et bénéficier d'un jour de pardon divin. On sait que le mois de Ramadan, par excellence, c'est le mois où Allah Azza wa Jal pardonne, mais énormément. Mais d'une façon qui est, trouvez l'adjectif, déconcertante. Presque. Dans un langage humain, Allah est capable de pardonner à un niveau où si on savait, on aurait dit que non, là franchement, c'est pas possible. C'est pas autant que ça. C'est mubalara. C'est exagéré. Starfall, le prophète n'exagère pas. En fait, ce sont les qualités d'Allah qui nous dépassent, mais complètement. Et heureusement qu'on a un Seigneur qui est clément, miséricordieux et qui pardonne. Parce que imaginez que Allah agissait avec nous comme nous on agit envers les gens. C'était fini, hein? Terminé. Imaginez que moi je suis patron, je suis commerçant ou chef d'entreprise, j'ai des employés. Premier jour, il arrive en retard. Je dis bon, un petit signe. Le deuxième jour, il dit un deuxième signe avec les deux mains. Le troisième jour, il dit écoute, à un moment donné, il faut se recadrer un peu. Hein. On démarre le travail à 8h. Ça fait 3 jours que tu arrives à 8h10. À partir de demain, je note et je déduis 10 € de ton salaire. 10 minutes de ton salaire. 10 € de ton salaire, c'est bien ça, non? 1 € la minute, je sais pas ce que ça donne. Un expert comptable, 1 € la minute, c'est bien. Donc dis, je déduis 10 €. Ça loin là, vous faites gamme à torticolis là. Je déduis 10 €, 10 minutes, pardon, de ton salaire. Et s'il arrive encore en retard, à un moment donné, un blâme, un avertissement. Et ça, c'est. Même moi, j'aurais fait ça, astaghfirullah. Le cadre du travail, même moi, j'aurais fait ça. Pour garder la rigueur et pour que ça avance. Parce que sinon, on passe en mode anarchie, chacun fait ce qu'il veut, et on ne peut plus organiser quoi que ce soit. Imagine, vous recevez des élèves à la madrasa, le prof arrive quand il veut, il dit non, parti à droite, parti à gauche. Ce n'est pas possible. À un moment donné, on recadre. Mais heureusement qu'Allah ne nous recadre pas comme ça, subhanallah. Heureusement qu'Allah ne nous recadre pas comme ça, et Allah n'agit pas comme ça avec nous. Je sors du sujet légèrement, mais dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam avait cité que un être humain désobéit Allah. Et il s'en rend compte et demande pardon. Mais il demande pardon avec le cœur. Vraiment, mais tout se passe au niveau du cœur. Mes chers frères et sœurs, l'assemblée que nous faisons en ce moment, ça doit être une assemblée où on doit essayer de faire émerger l'amour d'Allah dans le cœur. Il faut que l'amour d'Allah s'installe. Il faut qu'il y ait des réalités qui prennent place dans nos cœurs, qu'Allah nous l'accorde. Donc, je commets un péché et je m'en rends compte et je demande pardon à Allah avec cœur, mais avec dévotion, avec regret, remords. C'est-à-dire, je réunis les conditions du taubatun nasuha. Allah Azza wa Jal dit ce hadith, hein, que mon serviteur m'a désobéi. Et il s'est rappelé qu'il a un Seigneur qui est au-dessus de lui qui le voit. Sens du hadith. Et il m'a demandé pardon. Allah prend en témoin les anges qu'il accorde son pardon à cette personne. Le hadith continue. Il dit que cette même personne, quelque temps après, recommet le même péché, la même chose. Allah Rabbul Izzah dit exactement la même chose. Et Allah pardonne tant qu'on lui demandera pardon et que la demande de pardon vient vraiment du cœur. C'est pour ça que je dis que c'est un pardon parfois qui est déconcertant, qui peut nous déstabiliser si on le savait. Mais Allah ne nous révèle pas tout. Le mois de Ramadan, la récompense, elle est auprès d'Allah. Vous savez, le hadith qui stipule que « wa ana ajzi bihi ». Et c'est moi qui en rétribue. C'est-à-dire que même An-Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas été informé de toutes les récompenses de l'au-delà, de ce qu'Allah va donner aux jeûneurs. Donner à qui? À Luqman, à Hudhaifa, à Ibrahim, à Abdullah, à Isa, à Anas, à Abdullah, tous ceux qui sont là. Ben, nous sommes tous concernés. Cette promesse n'est pas que pour Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, Hudhaifa radiallahu anhu, ou Abu Huraira. Non, le hadith, la promesse concerne chaque ummati. Et je suis un membre de cette umma. Et donc j'ai cet espoir. Donc là, on se rend compte à travers ce hadith, on va pas aller plus loin, que Allah est capable de pardonner d'une façon extraordinaire. Et mes chers frères et sœurs, on a dit qu'on parle souvent de pardon divin, mais on entend, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, malheureusement. C'est une notion qu'on a tellement entendue depuis qu'on est petit, à la madrasa, dans les talim, dans les différents programmes, qu'à un moment donné, on a banalisé ce mot. Allah pardonne, Allah pardonne. On va umrah, Allah pardonne. En le salat, Allah pardonne. Après le wuzu, Allah pardonne. Oui ou non, c'est des réalités. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, cette promesse de pardon. Aucune communauté avant nous n'avait eu une telle promesse de pardon de la part d'Allah Azza wa Jal pour leur péché. Et vous savez, pour comprendre les réalités, ces réalités, il est essentiel de se projeter vers l'au-delà. Toujours être capable de faire le lien entre le dunya, l'instant T, le moment que je vis, et son aboutissement le jour du Qiyam. C'est là que le croyant arrive à comprendre les textes. Parce que si je reste uniquement dans une compréhension dunyawi, mondaine, je réfléchis à un niveau humain. Et si je réfléchis à un niveau humain, je vais juste accepter le texte. Ouais, c'est la vérité, c'est Allah qui l'a dit. Je ne vais pas développer une conviction. Maintenant, si je me mets à étudier, le deuxième mot clé de cette assemblée, c'est étudier. Talabul ilm. C'est ce qui va sauver notre passage sur terre, Inch'Allah. C'est ce qui va nous permettre de devenir de meilleurs croyants. Donc ça, c'est le deuxième message de cette assemblée. Donc, maintenant, si je me mets à étudier les textes qui parlent du akhira, de l'au-delà, toutes les aides, et je vous assure que les ouvrages qui ont été écrits et les compilations de hadiths concernant l'au-delà, c'est énorme. C'est énorme. C'est des centaines, des milliers de pages, machallah. Donc là, je vais me rendre compte que le jour de Qiyama, il y a une situation. Une situation qu'Allah a révélée dans le Coran. Il me semble que la sourate al-Baqarah, A'udhu billahi minash shaitan rajim, Yawma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khayrim, muhdara, wa ma'amilat Minsu'e. Et je traduis, le jour où. Le jour, c'est quel jour? Le jour de Qiyam. Où chaque âme, chaque personne se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. C'est-à-dire, c'est l'étape où, le jour de Qiyam, Allah te permet de voir. Mais d'avoir une vision globale. Là, en ce moment, je vois quoi? Je vois les gens qui sont là, les messieurs. Je ne vois pas les dames en bas. Je ne vois pas le tonton qui est en train de faire les ablutions. Je ne vois pas les malaïkas qui sont présents. Et je suis sûr qu'il y en a plus que les hommes qui sont là, Inch'Allah. Et je me souviens de quoi? Quand j'ai utilisé le verbe voir, c'est avoir une compréhension, une vision. Quand je dis je vois mes actions, je sais ce que je fais depuis ce matin. Quelles actions? Si j'ai fait chourou, que j'ai pas fait, je fais tahajjud ou non, combien de vies que j'ai fait et tout. Maintenant, ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai fait le premier ramadan à 5h du matin. Non, on ne se souvient pas de tout ça. Ne me demandez pas ce que j'ai fait il y a un an. Bref, on s'est compris. Notre ihata, notre possibilité de comprendre, de voir et de cerner une lucarne de notre vie, elle est très limitée. Limitée à notre mémoire courte. Mémoire immédiate, je crois que ça se dit. Le jour des Qiyama, Allah te donne la mémoire totale. Où tu as un aperçu de ton existence. Toute ta vie. Depuis que tu étais Baalir ou Baalira jusqu'à ta mort. Et là, tu vas voir l'ensemble de tes bonnes actions. Et là, tu vas dire, Alhamdulillah. Mais le verset stipule, Wama amilat min sou. Mais également tous les péchés que tu as pu accomplir depuis ta jeunesse. Mais je précise, là, je sors de. Là, c'est du tafsir, là, parenthèse du verset. Les péchés pour lesquels tu n'as pas pu te faire pardonner. J'ai dit tu n'as pas pu te faire pardonner parce que c'est soit de façon active, soit tu n'as pas demandé pardon, ou alors de façon passive, par de bonnes actions, par certaines actions, malgré ça tu n'as pas pu obtenir le pardon divin. Et là, les savants disent, c'est le tafsir d'Allama Sa'di rahimahullah, un tafsir que je conseille vraiment d'acheter. J'en ai réservé un là, hier. Je ne dis pas le nom du commerçant, il en a reçu. J'en cherchais avec les trois vendeurs, les revendeurs à Saint-Denis, il n'y avait pas. Là, il y a une arrivée, alhamdoulilah, j'ai réservé un. Ça coûtait un peu cher, 70 euros, mais c'est deux gros volumes. Je vous assure, le renouveau spirituel que vous pouvez obtenir tout seul en lisant un peu de tafsir al-Sa'di tous les jours, c'est un tafsir qui est en plus, et c'est rare, qui est bien traduit, très bien traduit en français. C'est tout simplement magique. Ça change ta relation avec le Coran, les textes divins, et ça te permet de connaître Allah. Chose que je vous promets, hein, on ne connaît pas. On ne connaît pas Allah, on ne connaît pas Allah, je vous promets. Parce que si on connaissait Allah réellement, notre investissement de le dîn serait comme celui des sahabas. On ne va pas arriver à ce niveau. Mais plus on connaît Allah, plus on donne du cœur pour son adoration. Et ça, c'est un niveau de iman et de ihsan. On atteint le ihsan. Je fais la parenthèse. Et c'est le troisième mot-clé de cette assemblée. At-tafsir. Revenir vers le Coran. Étudier. J'ai pas dit, comme on a un des meilleurs hafez, hein, mon ami d'enfance, Abdullah, qui est là. J'ai pas dit, fais d'or. Hein. Révise deux si par là. Je révise deux si par là par jour. Ben maintenant, je vais réviser trois. Parce qu'il a dit, il faut revenir vers le Coran. Non, c'est pas ça. Révise tes deux. Tu révises trois, révise trois. C'est pas un problème. C'est mieux. Ce qu'on veut dire, revenir vers le Coran, c'est enfin faire un pas vers le sens, le ma'na de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. De Dhalik al-Kitab ou la Rayba fi. J'ai pas dit de prendre un Coran en français dans la traduction. Hein. Ça, franchement, ça t'apporte 10%. Des fois, c'est mal traduit. Pas forcément mal traduit, mais des fois, les termes, en fait, aucun mot en français ne peut traduire la beauté des versets de Kalamullah. Pas possible. Vous pouvez comparer toutes les traductions, ça ne ressort pas, la beauté. Par contre, le tafsir, c'est l'explication. Avec les mots d'être humain qui essaient de véhiculer, de relater, de diffuser le sens du message divin. Là, en ce moment, depuis le début de Ramadan, c'était pas prévu, on est scotché dans les programmes qu'on fait après le Salat al-Tarawih, Tu as un verset. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et on n'arrive pas à s'en sortir, dans le bon sens. Parce que, qui ne connaît pas? Il n'y avait pas un petit garçon qui était là? Il est où? Ah bon, d'accord. J'allais lui dire de réciter. Tout le monde connaît Alif Lam Mim, les cinq premières lignes. Dhalika al-kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Même ceux qui ne sont pas hafiz, on connaît ça, c'est normal. Mais entre le fait de le connaître par cœur et un jour ouvrir un livre de tafsir et de le lire et de découvrir le ma'na de Yu'minuna bil ghaib, comme Ibn Kathir ou As-Sa'di l'a expliqué, ou d'autres mufassirin, hein, je vous assure, ça devient un objectif de votre vie. C'est-à-dire, on devient accro. Excusez-moi, comme il y a des personnes qui sont accro, je ne veux pas parler de choses mondaines, il y en a qui sont accro à des séries télévisées, quand ils commencent, ils n'ont plus arrêté, parce que c'est comme c'est une addiction. D'accord ? Mais ça, c'est la bonne addiction, la positive addiction. Ça, c'est la spirituelle addiction. Et c'est là que je comprends le message du Prophète Salam quand il a dit qu'il y a deux estomacs, c'est une métaphore. En français, la bonne métaphore, c'est qu'il y a deux ventres qui ne seront jamais remplis. Le mauvais, c'est celui qui aime l'argent, la cupidité, ça on n'en parle pas. Et l'autre, c'est celui qui a commencé à goûter à la connaissance religieuse. Quand on commence à y goûter, à prendre plaisir, à apprendre, ça devient une addiction, mais subhanallah, quelle addiction magnifique. Il dit que la seule chose qui remplit ce ventre, c'est la terre. Dans le sens où quand on meurt, c'est là qu'on arrête d'apprendre. Je vous promets, je l'ai conseillé à un ami qui a fait une intervention chirurgicale il y a quelque temps et qui était donc immobilisé. Il a acheté un tafsir d'As-Sa'di. Et il a commencé à lire, il est hafiz al-Qur'an, il fait tarawih depuis des années. Il m'a dit que sa vision du Qur'an, du trésor qu'il a de son cœur, ça a complètement changé. Donc, As-Sa'di rahimallah dit, retrouver ses péchés dans son livret de compte le jour de Qiyama, c'est khasara. C'est la pire des calamités. C'est la plus grande des tristesses qu'un être humain peut ressentir de son existence. C'est de voir que le jour de Qiyama, il y a des péchés qui sont toujours là. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas pu demander tout, alors que d'autres personnes vont voir un livret de compte où les péchés ont été pardonnés. Et toi, Allah protège, tu retrouves tes péchés. Et là, quel sera le souhait de cette personne, la suite du verset, Tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. C'est-à-dire, le jour de Qiyama, la chose que tu vas détester le plus, regretter le plus, ce sont ses péchés qui étaient pourtant de ce dunya source de plaisir, oui ou non? Quand quelqu'un accomplit un péché, c'est souvent par plaisir, quel que soit le péché. C'est parce que Shaitan t'a demandé de le faire. Il t'a vanté les vertus, les qualités, la jouissance qu'il y a de ce péché. Donc la personne le commet et il ressent une certaine satisfaction, mais sa satisfaction, elle est très limitée dans le temps. Et puis on oublie, mais le péché reste là, le point noir. Le péché reste là et le point noir reste sur le cœur. Avec ses conséquences en termes de privation de lumière divine, privation de concentration, de dévotion de la salat, d'absence de compréhension du Qur'an, de dhikrullah, que tu lis mille fois, astaghfirullah, alhamdulillah, et qu'il n'y a rien qui rentre, le cœur reste bouché et hermétique. Ce sont les conséquences des péchés. Le péché que tu aimais faire là, de ce dunya, le jour de Qiyama, la personne souhaitera qu'il y ait une distance, baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Et donc, les savants disent que ça te paie. On est parti un peu loin là, dans l'explication. Si le croyant prend conscience du poids des péchés, de leurs conséquences, et du fait que c'est une fatalité, quand tu l'as le jour de Qiyama, c'est terminé. Hein? Le jour de Qiyama, tu ne demandes plus pardon à Allah. Maintenant, si Allah décide de te pardonner, subhanallah, ça revient au Rahman Rahim. Si on se rend compte, on prend conscience qu'on vient de le faire de la gravité des conséquences du jour de Qiyama, ben, la personne réalise, de un, l'important de demander tawba, de deux, ça aurait dû être de un plutôt, de ne pas commettre de péché, deuxièmement, de demander tawba, et troisièmement, l'importance de ces jours-là. Comme Ramadan, on obtient le pardon divin. Donc, mes chers frères et sœurs, vivre un jour de Ramadan, c'est vivre un jour de pardon divin, qui est exceptionnel. Et le jour de Qiyama, on réalisera quel ni'ma Allah nous a accordé en vivant 30 jours de Ramadan cette année. Et combien de Ramadan dans notre vie? Des années, une partie de notre vie de péché aurait été pardonnée par Allah. Chers frères et sœurs, vivre un jour de Ramadan, c'est vivre un jour où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines sont emprisonnées. Les savants disent que Allah réunit toutes ces conditions, nous donne toutes ces possibilités pour qu'on se rapproche de lui, pour qu'il n'y ait plus de frein. Même notre nafs, qui est normalement ammaratum bissou, qui nous ordonne le mal, même le nafs, il est sous contrôle par rapport au jeûne. Le nafs, je ne dis pas qu'il disparaît, mais il est affaibli. Et on a une grande faculté à contrôler son regard, à faire attention à ce qu'on dit, à faire attention au péché. On a une faculté, on le vit, je pense, depuis le début de Ramadan, une certaine faculté à venir à la masjid à l'heure, très tôt, à tenir les salats de tahajjud, chose qu'on n'a pas la motivation de faire en temps normal. C'est que Allah te donne une guidée, Allah met tout à ta disposition pour que, mashallah, tu trouves cette guidée. Et c'est un jour qui nous sauve. Le un jour de Ramadan, c'est un jour qui peut sauver une vie, qui peut sauver une existence. Un jour où tout peut changer si Allah nous donne la hidayah, nous donne la guidée. Et Allah nous permet de prendre conscience. Mais prendre conscience de quoi? Le problème avec notre façon de pratiquer, c'est qu'on a mis en place une routine religieuse. On fait dans Ramadan, on s'arrête. 11 mois. On refait l'année prochaine si on est encore vivant. Et il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas comme ça la vraie relation avec Allah Azza wa Jal. On demande à Allah de nous permettre de prendre conscience que notre parcours spirituel jusqu'à ce jour, même s'il y a pas mal de bonnes choses, mais il nécessite une amélioration. Il y a besoin d'une mise à jour. Il ne faut jamais être ce croyant qui pense être 100% dans le droit chemin et qui n'avance plus, qui ne fait plus d'efforts pour développer d'autres qualités. Et là, je suis gentil en disant développer d'autres qualités. Je voulais plus te dire, cette personne qui ne fait pas son introspection et qui ne réalise pas que dans sa pratique, il y a énormément de manquements. On a besoin de cette hidayah. Qu'Allah te donne cette hidayah pour passer à autre chose, pour prendre ton destin en main, pour commencer à étudier le Coran, pour commencer à aller vers une APA, vers un alim, pour essayer de s'inscrire dans une madrasa pour adultes, ou d'assister à des programmes pour te reprendre en main, comme on a dit, reapprendre la foi, le iman, et vérifier qu'est-ce qui nous manque. Parce que on va se rendre compte qu'il y a énormément de réalités de foi qui nous manquent. Ça, c'est un étincelle de foi. Et j'espère qu'il aura lieu aujourd'hui, Inch'Allah. Vivre un jour de Ramadan, chers frères et sœurs, c'est vivre un jour où Allah prend la décision de délivrer des gens de l'enfer. On a tous entendu, hein? Tout le monde entend. Toutes les soirs, toutes les nuits de Ramadan, Allah délivre des gens de l'enfer. Après, est-ce qu'on s'est posé la question? Mais Allah délivre qui de l'enfer, Luqman? Non. Luqman, c'est un crack, lui, donc c'est pas lui qu'il fallait demander. Et souvent, on dit, Allah délivre ceux qui n'ont pas la foi de l'enfer. C'est pas ça. Allah délivre de l'enfer des gens comme vous et moi. Il y a des gens qui font la salat 5 fois par jour toute l'année. Et là, on se dit, mais 5 fois par jour toute l'année, mais qu'est-ce qu'ils font en enfer alors? Qu'est-ce qu'ils feraient au conditionnel éventuellement en enfer? Des gens qui lisent le Coran tout le temps. Des gens qui jeûnent Ramadan comme vous et moi. Mais ce sont des personnes qui se sont laissées entraîner vers des péchés. Et qui n'ont pas pu arrêter ses péchés avant de mourir. Mes chers frères et sœurs, la règle est la suivante. On demande pardon, on obtient le pardon divin. Ou alors Allah nous pardonne par de bonnes œuvres, un hajj, umrah ou jum'ah et ainsi de suite. Mais si Allah a vu quelque chose de négatif en nous, israr ala al-ma'asiyah, rester ancré dans le péché, avoir un mauvais fond, avoir un mauvais comportement envers les gens, bref, certains descriptifs qu'Allah nous protège, le péché reste. Et quand on se présente le jour de Qiyamah avec le péché, il y a encore une chance qu'Allah nous pardonne. Et on ne sait pas comment ça se passe là-haut. Mais théoriquement, être avec un péché devant la balance, c'est le purgatoire. Aller dans l'enfer par rapport à ce péché qu'Allah nous protège. Donc, les personnes qui sont délivrées de l'enfer pendant les nuits du Ramadan, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas en Allah. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont malheureusement commis des péchés qui peuvent avoir ces conséquences. Ce que je veux dire, c'est ne nous croyons pas à l'abri. Il ne faut pas prendre ce Ramadan de haut. Genre, Ramadan, Tawbah, ça c'est pour le commun des mortels. Moi, mashallah, grande barbe, je mets un joli kafini tout le temps. Je connais Coran, peut-être par cœur. Je viens d'une famille religieuse. J'ai toujours fait namaz depuis que je suis petit. Toujours. Et dans ma famille, tout le monde fait la salah. Donc, ça c'est pas pour moi, ça a délivré de l'enfer et tout et tout. Ça c'est pour les autres. Ben, ça qui vient pas namaz, ça qui fait pas. Non, non. Le Ramadan, c'est pas pour les autres. Et que moi, mon Ramadan, c'est tahajjud. C'est le. Je vais chercher le summum de la foi, la perfection, la cerise sur le gâteau. Non, non. Tout ça, c'est pour toi, en fait. Délivrance de l'enfer, c'est pour toi. C'est pour toi en premier. Prenons ce Ramadan comme ce moment où on peut sauver notre existence et valider notre passage sur terre. Donc, je disais, ne nous croyons pas à l'abri. Parce que même ceux qui donnent l'impression d'être les plus religieux ne sont pas à l'abri de défaillances. Et souvent, ce sont des défaillances qu'on ne remarque pas. Mais on s'en rend compte quand il est trop tard, le jour de Qiyama. Je dis que oui, mais de quoi il parle là? Je vous donne des exemples. Lors du voyage nocturne, Al-Isra wa Al-Mi'raj, le prophète alayhi salatu wa salam avait vu Tawa'if mu'adhaba fin-nar, des gens qui sont punis et châtiés de l'enfer. Il a vu des personnes qui subissaient, on ne va pas dire le châtiment, un châtiment terrible à cause du zina, de l'adultère. Et là, je regarde chaque personne ici, et chacun en train de se dire, pas pour moi ça. Moi, jamais fait ça, et jamais il fera Inch'Allah. Donc, je dis, ben, du coup, c'est pas aussi grave, alors. Et en train de parler de péché terrible, là, le zina, les trucs comme ça. Non, non, c'est pas fini. Le prophète a vu également des personnes qui étaient châtiées à cause de la médisance. Ah, ça aussi. Ah oui, ça aussi. Riba. Si on peut compter combien de médisances on fait en une journée. Quand on dit qu'il y a des petits péchés qui passent comme ça, là, pour lesquels on ne pense même pas demander taouba, et on continue, on le répète, on fait tout le temps, et on y prend plaisir. Et plus il y a de monde, plus on aime le faire. Le jour de Qiyama, les conséquences sont énormes, ça. Allah nous protège. Donc, ne nous croyons pas au-dessus de tout ça. Il y a des manquements, nous, il y a des péchés qui sont bien là. Le prophète, alayhi salatu wasalam, là, je vais choquer plus d'un, c'est des hadiths qu'on n'a pas souvent. On n'entend pas souvent, parce que peut-être c'est des alim qui ne le disent pas, ils ne veulent pas trop le dire, ou ils ont peur eux-mêmes. Le jour de Qiyama, parmi les premières personnes à entrer dans le Jahannam, le alim, le qari, qui n'a pas été sincère. Cette personne se présentera devant Allah, chargée, blindée de bonnes œuvres. Il a enseigné, il a été professeur, il a lu, il a fait salat tarawih, il était imam, tranquille, renforcé spirituellement, beaucoup de bonnes actions. Il déborde de hasanat. Allah appellera trois catégories de personnes, on ne citera que celui-là. Et Allah le fera reconnaître le bienfait qu'il a accordé. Il dit, oui, ya Allah, tu m'as accordé tel bienfait. Et Allah lui dira ce que personne ne savait de ce dunya, même pas sa femme, même pas ses enfants, même pas ses proches. Que tout ce qu'il a fait, c'était par... C'est quoi le mot qui fait peur? Par ostentation, qu'Allah ne protège. Riya, suma'a shuhra, ashirkus asra, le petit shirk. Et Allah demandera aux anges de le prendre et de le jeter directement dans le Jahannam. Allah ne protège. Ça secoue, je vous promets, ça secoue. Ça, c'est plus qu'un défibrillateur. Ça te... Waouh! À ce point, c'est-à-dire une vie de da'wah, une vie où je lis Coran, pas pour les gens, une vie où je fais imam, je veux dire, une vie où je lis Coran, je fais tout ça, et en une fraction de seconde, on m'en vend. Oui, c'est possible. Si tu n'as pas bien placé ton niya. Et l'intention, ça se voit, ça? C'est subtil. Il y a des choses qui sont tellement subtiles, qui prennent place dans le cœur, qui peut t'élever de façon extraordinaire, mais qui peut également te détruire complètement. Donc, ne soyons jamais dans le jugement. Ne juge pas une personne par son apparence. Lui, c'est un gunégar, ça c'est un péché en Dieu. Si, tu sais pas. Vous rappelez, on a parlé des épreuves. Tu sais pas ce qu'il vit au quotidien. Tu sais pas c'est quoi son histoire. Tu sais pas ce qu'il a vécu de son enfance. Et que peut-être il y a un problème qui l'accable toute sa vie, même s'il n'est pas présent avec toi au premier rang tout le temps, mais son épreuve fait que ses péchés sont pardonnés tous les jours par Allah. Et le jour de Qiyama, il se présentera sans péché. Il entrera dans le Jannah avant toi. Ne le juge pas. De la même façon, on voit quelqu'un qui a une bonne apparence et tout. Ne le considère. Enfin, après, le but, c'est pas de déconsidérer les gens. Mais ne te dis pas tout de suite que lui, c'est un Jannati. Non, tu sais pas. Personne ne sait. Ou alors, plutôt, la bonne façon d'approcher cette deuxième partie, c'est toi. Si tu as une bonne pratique de la religion, ne te surestime pas. En fait, ne t'estime pas du tout. N'y pense même pas. Ne te dis jamais que non, moi je pense que je suis Jannati du tout. Recherche l'agrément d'Allah, demande pardon pour les choses que tu connais, wa ma la ta'lam, et pour les choses que tu ne connais pas. Donc mes chers frères et sœurs, on ne sait pas à l'instant T, ce dimanche, quelle est notre situation. Si l'ange de la mort venait à reprendre l'âme de quelqu'un parmi nous, même s'il a toutes les qualités qu'on pense qu'il a, Allah seul sait qu'est-ce qu'il y avait au fond. Donc personne ne doit dormir sur ses deux oreilles. Personne, et je me mets à la tête de ces personnes-là, personne ne doit se reposer sur ses lauriers et se dire que moi je suis sauvé, moi je suis quelqu'un de bien. Abadan wallah, on ne sait pas qu'est-ce qui viendra de nous le jour de Qiyam. C'est pour ça que ce Ramadan-là, je dois l'embrasser, dans le sens le prendre dans mes bras et le vivre comme si c'était mon dernier Ramadan. Il y a un an et demi, deux ans, quand le Covid avait commencé, il y avait des morts tous les jours. La mort s'est démocratisée. La mort ne touchait plus les personnes âgées uniquement. La mort ne touchait plus que les personnes malades ou qui ont un cancer. Des jeunes en bonne santé, sportifs et tout, touchés au poumon, ils meurent. On l'a vu, oui ou non, à la réunion dans nos cercles d'amis et dans le monde entier. Allah seul sait si on meurt maintenant. Donc, ce Ramadan, je dois le vivre comme un événement qui va me sauver, qui me permettra peut-être, d'échapper à mes manquements et d'obtenir la grâce et le pardon divin. C'est-à-dire que vivons ce Ramadan de façon intense, comme si c'était notre dernier. Chers frères et sœurs, l'objectif du jeûne de Ramadan et du mois de Ramadan de façon générale, c'est la'allakum tattaqoun, d'obtenir la piété. Et c'est le thème de notre intervention aujourd'hui, imprégner notre cœur et nos actions de piété. Mais très souvent, on n'y arrive pas. Ça, c'est un constat. Très souvent, on parle de la piété, on arrive à faire tahajjud tous les soirs pendant un mois. On arrive à faire taravih 20 rakat tous les soirs. On ne rate pas un rakat. On arrive à faire plein de bonnes choses. On donne l'aumône tous les jours. On lit, on peut faire 10 khatm al-Qur'an par mois dans le mois de Ramadan. Mais le problème, c'est que la piété ne s'incruste pas, ne s'installe pas, ne se pose pas dans notre cœur, ne se développe pas. Et la piété ne nous accompagne pas après le mois de Ramadan. Et ça, c'est une réalité. Et je parle pour moi en premier. Je pense que chacun doit être capable de faire sa propre introspection. Qu'est-ce qui fait que, quelques jours après le mois de Ramadan, j'arrête progressivement de faire tahajjud? Réalité. Qu'est-ce qui fait qu'après le mois de Ramadan, j'arrête de jeûner? Je fais mon 6 shawwal. Parce que encore chaud, le moteur est encore chaud, je fais mes 6 shawwal. Mais après, je ne formule même pas l'intention de jeûner tous les lundis, le jeudi, comme Al-Habib alayhi salatu wassalam le faisait. Ou de jeûner le 13, 14, 15, quand le Prophète le faisait. Je ne fais pas cette intention. Et le jeûne, je l'abandonne. Jusqu'à le mois de Dhul-Hijja, peut-être, où je vais jeûner le jour Arafat. Mais sinon, le jeûne ne fait plus partie de mes habitudes. Après le mois de Ramadan, peu à peu, on commence à délaisser les doigts. Comment on fait doigts à tahajjud? On fait doigts 15 minutes avant iftar, on fait mashallah. Mais après Ramadan, on va se rendre compte que, enfin, en temps normal, ça se passe comme ça. On fait beaucoup moins de doigts, il y a moins de cœur aussi dans les doigts. On ne contrôle plus notre langue. Parfois, même le jour de Eid. On est à table et tout, on commence déjà à déballer les ribats. Et certaines personnes n'aiment pas, je disais donc que la piété ne reste pas en nous après le mois de Ramadan. Alors, ce que je veux dire, c'est toute autre chose. Certaines personnes n'aiment pas qu'on parle des choses négatives. Parce que là, on va passer au côté sombre du bayan, qui ne va pas vous plaire. Et qui ne me plaît pas non plus. C'est de parler des manquements qu'il y a en nous. Certaines personnes, je vous dis, j'ai reçu des messages des fois après certaines interventions de personnes qui m'écrivent et qui me disent que Moulana, ça, il ne faut pas dire un bayan. Je me rappelle une fois, j'avais dit que dans un programme d'un bayan de Nika, qu'il faut que le couple avance ensemble dans le droit chemin. Autrement, imaginez que le mari, la femme en général, c'est l'épouse qui est plus pieuse, elle est à fond dans tahajjud, dans les bonnes actions, mashallah, mashallah, et le mari est un peu chouaya chouaya, comme on dit. Et il a peut-être des petits écarts de comportement, il fait des choses pas bien et tout, et que la femme ne sait pas, heureusement aussi. Et que dans le Jannah, cette femme ne retrouve pas son mari. Parce qu'on n'entre pas dans le djannat livré de famille, mes chers frères et sœurs. On n'entre pas dans le djannat avec le livret de famille. Hein? Vous pouvez dire au 20, mettre livré de famille dans mon kafan, au moins Allah il connaît na 3, 4 enfants. N'a pas tout ça. L'homme et la femme vivent ensemble de ce dunya. L'objectif et l'idéal, c'est qu'ils soient ensemble dans le djannat. Sauf si vous importe, madame, vous voulez faire un break. Mais non, dans le djannat, ce qui avait de mauvais en nous s'en va aussi. Donc elle dit, non, astaghfirullah. C'était pas ce que je voulais dire. Dans le djannat, tout ce qui est négatif s'en va. Toutes les prises de tête, les magadj kaout, c'est fini ça. L'homme devient parfait. Parfait et agréable. D'accord? La femme aussi. On disait donc que, qu'est-ce qu'on disait justement? Que, oui, imagine que, oui, j'avais dit une fois que dans un couple, une femme peut entrer dans le djannat, mais son mari n'y accède pas. Il n'y accède pas tout de suite, je veux dire. Parce que il faisait zina. Il trompait sa femme. Il faisait tel péché. Mais, c'est pas parce que sa femme est dans le djannat qu'il a un passe-droit. Mais il doit passer par le djannat. Et on m'a dit une fois, non, mais faut pas dire ça, il fatigue la tête. Fatigue la tête. Mais, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas se dire les choses correctes? Alors, par rapport à ce genre de remarques que j'ai déjà eues, mais vous savez, moi, ça, c'est pas un problème pour moi. Hein. C'est des remarques et je les entends. Et ça permet d'aiguiller un petit peu plus, de comprendre comment la Oumma fonctionne, notre communauté fonctionne. Donc, il y a deux possibilités. Soit, je suis du verbe suivre ce que ces gens disent, on parle que du positif. Je vous parle que de Fadail, Ramadan, il y aura ça, on aura Jannah, de Rayyan, et ainsi de suite, de le Jannah qu'on va entrer, il y aura de telles choses, et telles choses, et telles choses. D'accord? Et là, tout le monde sortait, en forme, des mashallah, Moussab la Jannah, Moussab la Jannah. Moussab la Jannah, Jean, c'est moi qui. D'accord? Dans ce cas, si c'est ce qu'on veut, ben, je propose autre chose, parce que c'est absurde. Je propose une autre chose absurde, c'est que je vais vous chanter une chanson. La chanson, personne ne connaît pas. Tcha-tcha, il connaît. Michel Polnareff. Comment il chante à Dissab? Allez. Nous, on ne connaît pas, c'est 1973. J'ai dû chercher sur Google. Vous vous rendez compte, les paroles, le temps que j'ai perdu pour ça. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Tous les brebis, tous les bandits, avec les saints et les assassins. Si vous voulez, on chante ça. Mais le problème, c'est que je ne sais pas chanter. Et deuxièmement, c'est totalement absurde de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Parce que c'est me conforter moi-même dans mes manquements. C'est se voiler la face. C'est de se dire que tout va bien, Allah va nous accepter. Je vous promets, certains pensent qu'ils sont comme Hazrat Bilal, comme Abu Huraira, il y a tout, il y a Hafez Quran. Vous savez qu'il y avait des sahabas qui n'étaient pas Hafez Quran. Donc moi je suis Hafez Quran, on est sûr qu'on est... Et l'autre possibilité, c'est qu'on évoque clairement les manquements qui sont en nous et qui nous donnent l'illusion d'être au top de la foi, ce qui fait qu'on vit tranquillement notre petit rythme spirituel. On a organisé notre religion à notre sauce. On a fait notre petit carré de religion sur mesure et on ne cherche pas à s'améliorer. Ce qui veut dire que moi, Ibrahim, après le Ramadan 2015, c'est le même Ibrahim après le Ramadan 2022. Il n'y a rien, il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien qui a été apporté. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est complexe. Parce que être persuadé d'être dans le droit chemin, alors qu'il y a des manquements, et personne ne peut nous dire quels sont nos manquements, c'est compliqué. Donc, bien sûr, je sais l'option 2. On va essayer de mettre en avant un peu nos problèmes. Chers frères et sœurs, il y a souvent un décalage entre notre iman et nos bonnes actions. Et ce décalage crée un déséquilibre entre notre cœur et les membres, les jawarih, qui accomplissent les bonnes actions. Là, il faudra suivre. Là, on va décoller, ça va être... C'est vrai qu'après 45 minutes de décolle, c'est un peu lent. Mais là, ça va être un peu plus technique. Et là, il faut vraiment, vraiment concentration. Les membres du corps prient. Je prie, je lis le Coran. Avec ma langue, je fais le zikrullah. Avec ma main, je donne l'aumône. Mais le problème, c'est que le cœur n'est pas irrigué par ses bonnes actions. Et leur effet n'atteint pas le cœur. En fait, pour être plus précis dans l'anatomie spirituelle, les actions devraient normalement démarrer du cœur. C'est mon iman billah, hubbullah, l'amour d'Allah, khashyatullah, la crainte d'Allah, ma taqwa Allah, qui doit être à l'origine de mes bonnes actions et de l'éloignement des péchés. Et le transmettre au corps qui va adorer Allah Azza wa Jalla. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, nos cœurs ne remplissent pas cette fonction. Ce qui explique tous les manquements qu'on retrouve dans notre vie spirituelle et je dirais même notre manque de spiritualité. Il y a des actions, bil jawarih, mais il y a une absence de réalité de la foi. Et on va le détailler, ça. Et cette absence de spiritualité, de réalité de la foi, elle se manifeste de deux façons. On suit toujours ? Elle se manifeste de deux façons. Première façon, de bonnes actions quotidiennes. C'est moi, ça ? Zohar, Asa, Maghrib, Isha, Fajr aussi, comme il gagne à l'heure de Jamad. Il y a Quran, il y a Assine le matin, j'y suis, Tabarak al-Ladhi le soir. Je le fais à l'Waqi'a après Maghrib. Je ne fais pas, mais normalement on doit faire. On fait, d'accord ? De bonnes actions quotidiennes. Mais le cœur est complètement vide. Il n'y a aucune halawatul iman, aucune douceur de foi. Il n'y a aucune concentration dans ma salah. Je ne ressens strictement rien quand je prie. Il n'y a pas de dévotion et il n'y a pas de piété dans les actions. On vit la foi, on la pratique, mais on ne la ressent pas du tout. Ça se passe uniquement dans le corps, mais rien au niveau du cœur. Exemple, s'il vous plaît. Exemple concret pour qu'on comprenne cette situation qui est malheureusement notre quotidien. Ce mu'min qui prie ses cinq salats toute l'année, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui, durant le mois de Ramadan, fait namaz tahajjud. C'est moi, ça. Dans Ramadan, je me lève, je suis là, tahajjud. Mon corps exécute le gestuel. Je fais namaz tahajjud avec mon corps. Je lis les versets, les adhkar, mais je fais salat, mais mon cœur pense à autre chose. Je fais namaz des imams, Tarawih, de belles lectures, de très belles lectures, d'excellents qurra, mashallah. Je commence à concentrer, hein. Pourtant, je suis venu bonheur, concentré. L'imam, quand, alhamdulillah, rabbil alamin, rahman, rahim, maliki yawmid din, il a fini, wala dalin, amin, c'est-à-dire, là, on passe à ceux que je connais peut-être pas par cœur, et l'esprit commence à vagabonder, on pense à autre chose. Ou alors, si je ne pense pas à autre chose volontairement, ben, il y a un vide, je pense à rien du tout. Je suis un peu dans les vapes, jusqu'à ce qu'il dit Allahu Akbar, et je vais dans le ruku. Malheureusement, c'est un peu ça notre salat tout le temps. Wallahu musta'an. Tu complètes ta salat, tu en ressors, le cœur est vide. Mais ça, on n'a pas Covid, non ? On n'a pas Covid, non ? Vous attendez tous, écoutez-moi. Premier, on ne va pas mettre masque. Première fois, on ne met pas masque depuis 2 ans. C'est pour moi, ça le coup. Inch'Allah. Allah nous garde en bonne santé. Donc, je finis ma salat, mon cœur est vide, il n'y a rien. Je retourne vers mes occupations. Cette salat aurait été tout simplement une parenthèse dans ma vie. J'ai accompli mon devoir. Oui, namaz et faraz, je l'ai fait. Et j'en ressors. Qu'est-ce que tu as obtenu ? Qu'est-ce que tu ressens intérieurement ? C'est pas la question que vous posez, ça. Mais m'a fait mon namaz. Le devoir est accompli. Je veux dire que le cœur ne baigne pas dans la lumière. C'est des choses qu'on n'arrive pas à ressentir. Je donne l'autre cas de figure. On a dit que, c'est pour ça que je dis ça, il faut suivre, l'absence de spiritualité se manifeste de deux façons. On a dit les bonnes actions, mais le cœur n'y est pas. Ça, c'est un. L'autre façon qui se manifeste, c'est de bonnes actions au quotidien, comme moi, mais présence de péché intérieur, dedans. Incompatible et incohérent, inacceptable avec mon niveau de pratique. Quelqu'un qui est habillé comme ça, que ce soit un homme avec la sunna, que ce soit une dame qui se couvre les cheveux de façon pudique, qui met son châle et qui est « mashallah, mashallah », avoir des péchés intérieurs comme ça, c'est incohérent. Et certains diraient, non, mais c'est une hypocrite. Non, on n'est pas là pour dire hypocrite ou non. Parce que peut-être c'est nous, nous en sommes, nous en faisons partie qu'Allah protège. C'est-à-dire que cette incohérence, cette absence de spiritualité, c'est également quand on a beaucoup de bonnes actions, mais intérieurement, on a des péchés envahissants qui restent là et qui ne sortent pas et dont nous n'en sommes même pas conscients, ce qui fait que je ne demande pas pardon pour ça. Et cela habite mon cœur et pourrit mon cœur, ma foi et ma vie. Et je m'en rends compte quand je meurs. Allah protège. Comme elle est calme, de reprendre mon âme, c'est là l'examen. C'est là qu'on sait, est-ce que notre passage sur la tête est validé par Allah ou non. C'est comment il se présente à nous, de quelle façon, sous quel visage. Exemple concret, c'est cette croyante modèle. Elle met sa cape tous les jours. Elle met bien son châle, elle est pudique, mashallah. Elle va au talim tout le temps. Je ne sais pas s'il y a des dames qui vont encore au talim. Il y en a, alhamdulillah. Il y a des enfants, elle a des enfants qui font hifz. Une famille qui est religieuse, mashallah. Mais elle a un problème, son cœur est rempli de jalousie. Hasad. Sa belle-sœur est partie au mois de Ramadan. Son ventre, il fait mal. Comme on dit en créole, le ventre, il fait mal. Jalousie. Ça la perturbe. Sa sœur, mashallah, elle a économisé. Elle a acheté une maison. Ça fait mal. Elle n'a pas de haine pour cette personne, hein, mais il y a cette maladie spirituelle, la jalousie, elle est ancrée là. Quelqu'un de sa famille se marie, des enfants de, allez, se marie, et le mariage se passe bien, ils sont heureux, ça fait mal. Il y a des gens qui sont éprouvés par cette maladie là, la jalousie. Il suffit que quelqu'un ait quelque chose que tu n'as pas, pour que ça te perturbe. Ça, c'est complexe. Alors que, on a dit, c'est une femme qui est, mashallah, qui est pratiquante à fond. Mais elle a ce problème intérieurement. C'est un déséquilibre entre le corps qui agit et le cœur qui est assombri par ce péché. Je prends un autre exemple. C'est cette femme, cette maman, cette belle-mère, on va dire, très religieuse, pareil. Là, on parle des gens à fond de l'udine. Mais indirectement, cette belle-mère, elle sème la discorde dans le couple de son fils. Elle veut garder mainmise sur son enfant. Elle n'a pas su couper la corde, comme on dit. Elle veut continuer, elle veut que son fils, voilà, lui soit présent, mais elle ne pense pas qu'il y a un mariage, il faut donner une certaine autonomie. Laisser respirer les couples. Laisser-les avancer, s'émanciper, trouver leur chemin. D'accord? Non. Elle garde mainmise, elle veut gérer l'éducation des petits-enfants, elle a un mauvais comportement avec sa belle-fille, parce qu'elle voit sa belle-fille peut-être comme quelqu'un qui va court-circuiter tout ce qu'elle a construit jusqu'à maintenant. Elle a un blocage. Hein. Là, c'est un psychologue qu'il faut voir. D'accord? Et du coup, elle crée des tensions au sein du couple. Et au quotidien, chaque fois qu'il revient d'un repas familial, ouais, votre maman, il dit ça, il n'arrête pas de faire des remarques, il dit mon enfant, il est mal élevé, et qu'elle est comme ça, pourquoi il n'y a pas courant correctement, il aurait dû faire ça, chez nous, il était comme ça, côté petit, il était comme ça. La tête fatiguée, écoute, maman, là. Problème au sein du couple. Je vous dis ça, tout ça, je vous dis, c'est des témoignages, hein, c'est des gens qui nous disent que c'est comme ci, c'est comme ça. Cette femme, elle est d'apparence très religieuse, mais elle sème la discorde. Semer la zizanie, la discorde, c'est grave. Mais le faire au sein d'un couple, c'est encore plus grave. Troisième exemple et dernier, cette femme qui est religieuse, mashallah, mashallah, mais depuis 2 ans, elle ne parle plus à sa belle-sœur. Parce que le joaïd l'a dit à ses affaires. Parce qu'il y a une incompréhension quand elle a fait le partage chez le notaire par rapport à son mari, il a eu ça, alors il devait avoir ça. Il y a un truc qui n'était pas clair. Et depuis ce jour, elle ne parle plus à sa belle-sœur. Mais par contre, il s'est attalim, hein. Elle va à Talim, elle apprend, elle est religieuse, elle parle de dîn et tout, mais elle a coupé les liens avec un membre de sa famille. Certains vont dire, oui, mais exagère pas, ça ne fait pas de ces gens-là des personnes égarées. Tout le monde a des défauts, Moulissa, chacun a des petites erreurs, des petits. Elle dit, ils mettent bien son cap, machallah, parle pas de ses péchés, ils mettent bien son cap, ils achètent son cap chez Anissa, même s'ils achètent chez Wajdan, peu importe. Elle cause avec bonhomme dans le chemin. C'est pas ça, l'apparence, mettez de côté tout ça. Cette apparence-là, elle est importante, hein. La pudeur et tout ça, je ne déconsidère pas. Mais je veux dire que ce que toi, tu appelles des petits défauts, des manquements, ce sont des péchés qui sont lourds, lourds en conséquence. Et ça crée un déséquilibre entre cœur et le corps. Et je le redis, c'est incompatible avec notre pratique assidue de la religion au quotidien. Parce que là, on a parlé de jalousie. Pour ça, m'a dit à propos de la jalousie, elle détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Tu fais 5 katam couran, ça se détruit parce que ton cœur est baigné dans la jalousie. C'est compliqué. Tu as l'illusion d'être au top de la foi et en finalité, il n'y a rien. On a parlé de namima, semer la discorde entre les gens. Le prophète m'a dit que, le prophète était une fois passé près d'une tombe, des gens qui étaient châtiés. Le hadith est connu. Il a dit au sahaba que cette personne-là, son châtiment dans la tombe, c'est pas pour un péché majeur. C'est parce qu'il colportait, pardon, les nouvelles et il semait la discorde entre les gens. On a parlé du fait de rompre les liens. Dans chaque personne de l'assemblée peut dire avec qui il ne cause pas en ce moment. Je suis désolé. Et peut-être que je m'inclus dedans. Ben, faut me réfléchir, mais je ne pense pas, mais on va dire ça comme ça. Avec qui on a un membre de ma famille avec qui il ne cause plus. Et ça fait combien de temps? Ah, il fait longtemps, depuis que papa est mort. Depuis qu'elle a distribué, qu'elle a fait le partage. Ah, elle n'a pas bon, hein, pas bon du tout. Hein. Ça, grand barbe, ça, madame, il met chal, il met tout ça, après, il prend le bien de monde et tout. Et depuis ce jour, on ne parle plus. Le professeur m'a dit, oh, fais attention, hein, c'est grave ça quand même. Ça, c'est des témoignages, tout ça, c'est notre société, ça. C'est la communauté Zarab 974, je suis désolé, c'est ça. Ça, c'est nos frères et sœurs. Le professeur m'a dit que tous les lundis et les jeudis, Allah Rabbul Izzah analyse les actions des croyants et Allah accorde son pardon à tout le monde, à l'exception de Qati'i Rahim, à l'exception de celui qui coupe les liens. Tu te rends compte, depuis 3 ans, tu ne parles plus avec ta soeur, avec ta cousine, avec ta tante, avec ta nièce, peu importe la raison. Depuis tout ce temps-là, Allah ne t'accorde pas son pardon. Alors qu'il accorde à plein de gens. C'est-à-dire que si on creuse ces différents points et leurs conséquences, on se rend compte que, ah ben réellement, on n'est peut-être pas aussi bon que ça. Il y a peut-être un travail à faire. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas être religieux et religieuse et avoir un cœur rempli de haine, avoir un cœur rempli de méchanceté. On ne peut pas être soi-disant pieux, pieuse et être égoïste, avoir aucune empathie. On ne peut pas être religieux, religieuse et avoir de mauvaises pensées permanentes sur les gens, prendre les gens de haut, s'estimer supérieur ou vouloir du mal aux autres. Et mes chers frères et sœurs, on doit revoir notre organisation du dîn, notre pratique. On doit absolument équilibrer et réajuster le lien entre le cœur et les membres qui pratiquent. C'est-à-dire, on doit aligner ce qu'on appelle notre batin, notre intérieur, et le zahir, l'extérieur. Les actions doivent s'aligner avec le cœur. C'est-à-dire, il doit avoir le même niveau de spiritualité. Ce qui veut dire monter le niveau de spiritualité. Parce qu'on ne peut pas laisser notre cœur habiter par ces péchés qui sont invisibles et continuer à avoir une pratique externe qui est assidue. La conséquence, c'est quoi? Je vais devenir une machine qui accomplit des bonnes actions, mais en fait, je ne suis qu'une coquille vide, il n'y a rien dedans. Mon iman serait en danger. Mon parcours sur terre risque d'être un échec. Et c'est au moment de mourir qu'on s'en rend compte. Et on ne ressentira jamais la réalité de la foi. Il y a des mots comme la taqwa, la yaqin, le ihsan, halawatul iman. Ça, c'est les termes qui décrivent le summum, le paroxysme de la spiritualité. Malheureusement, tout ça, le khushu', la dévotion d'Allah Salah, tout ça restera malheureusement inconnu pour nous, qu'Allah nous protège. Sans parler des conséquences des péchés qu'on a cités et d'autres dans le-delà. Ce qu'on veut dire, après ce constat qui n'était pas cool à entendre, je suis désolé, on comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que dans tout ce qu'on a dit, je pense qu'on s'est tous sentis un peu concernés. Et je me mets en premier. On doit réaliser qu'il est temps de se réveiller et de travailler en profondeur. Il faut qu'on arrive à donner un sens à nos bonnes œuvres. Il faut que j'aimerais pouvoir un jour ressentir la halawatul iman, la douceur de la foi, s'installer dans mon cœur comme c'était le cas des sahabas. Peut-être pas à ce niveau, mais qu'un jour mon cœur commence à battre réellement et à ressentir l'amour et la crainte d'Allah. Et maintenant je vais vous donner l'exemple, et après on cite les points et puis on s'arrête. Pour illustrer ce haut degré de iman, là je vous parle d'un idéal, un degré de iman où ton cœur baigne de la foi et que tes actions concordent avec ce qu'il y a de ton cœur. Tu as un haut degré de salat, de zakat, de lecture du Coran. C'est-à-dire un peu comme les sahaba qui, lorsqu'ils accomplissaient une bonne action, ça émanait du cœur et il y avait une lumière de ces bonnes actions. Et les bonnes actions les rendaient meilleures. Normalement, chaque bonne action doit te rendre meilleur. Après chaque salat, tu dois être plus fort spirituellement. Le nour de iman augmente de ton cœur. Après chaque salat, tu dois avoir une faculté, une capacité à rester éloigné du haram. Normalement, on doit progresser chaque jour de iman. Chaque jour de islam, de pratique, doit nous faire progresser. Ça, c'est le véritable iman. C'est comme ça que les sahaba l'ont vécu. Alors, moi, je vais vous donner un exemple qui peut nous parler de celui qui a atteint ce haut degré qu'Allah nous l'accorde. Et je garde l'exemple de la salah parce que c'est ce que je comprends. Et tout à l'heure, on a vu, celui qui prie, il ne comprend pas, il ne réfléchit pas, il n'y a aucune dévotion. Et j'ai eu ce pincement au cœur de me rendre compte que ça nous arrive à tous. Maintenant, la salah qui vient d'un cœur qui a développé les qualités qu'on va citer dans un instant, il y a 7. On va juste les citer, pas développer. Cette personne qui a atteint ce haut degré de iman, qui a la taqwa, qui baigne dans son cœur et dans ses membres, avant même de commencer la salah, on parle de la salah de Zuhur qui est la plus proche, le cœur de ce croyant ressent la motivation et la joie parce qu'il sait, il a le yaqin qui va se présenter devant Allah. Différence en celui qui court parce qu'il est en retard, il arrive direct, il rentre dans la masjid, Allahu Akbar, il a raté 3 rakat. Il n'y a pas de phase préparatoire, il n'y a pas de spiritualité. Tu ne te mets pas en condition de te présenter devant Allah. C'est des choses qui nous manquent. Et celui qui a atteint ce haut degré de iman, il se prépare mentalement. Il sait que c'est mon rendez-vous avec Allah. Il y a un yaqin derrière. Il y a une conviction. Il y a un husnu dhann billah, une pensée positive d'Allah. Il y a une connaissance qu'Allah est clément, miséricordieux, qu'Allah te voit, t'entend. Il sait ce qu'il y a de ton cœur. Et il sait que quand il se présente devant Allah, c'est Allah le voit entièrement. Lui, il ressent déjà cette joie. Je vais être devant Allah dans quelques temps. C'est mon rendez-vous avec Allah, la salah. Et c'est comme ça. Chaque salat de toute sa vie, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez comment son cœur baigne dans une lumière à chaque fois qu'il va faire un namaz? Parce qu'il ressent, il est motivé. C'est mon rendez-vous avec mon Rab, mon Seigneur. Il va m'accorder Hidina Sirat al-Mustaqim, le doigt que je demande. Il va m'accorder le pardon quand le ta'min, quand je dis Amin avec l'imam. Il va m'accorder le pardon. C'est comme un enfant qui va obtenir un cadeau, une récompense. C'était ça le Sahaba. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ça que je dois travailler. C'est pas fini, hein. Il nous manque, ça veut dire pas que c'est trop tard. C'est le moment d'y travailler. Comment? On verra dans un instant. Ce mu'min qui a atteint ce haut degré d'iman, quand il fait ses ablutions, wuzu, il a la conviction que ses péchés sont en train d'être pardonnés par Allah. Vous savez que quand on fait les ablutions, les petits péchés tombent. Les petits péchés s'en vont, bi'idhnillah. Et ça, c'est une faveur qu'Allah a accordée uniquement à cette ummah. Et le fait d'être, ça c'est, tout le monde le sait, mais celui qui a la yaqin et le haut degré de foi, il est honoré par cela. Il sait que maintenant, je vais me présenter devant Allah, et les péchés que j'ai faits depuis ce matin ou depuis Namaz Fajr sont pardonnés. Je ne me présente pas devant Allah avec une souillure. Donc, ça le met en confiance. Ça le met en confiance. Il sait qu'il va se présenter devant Allah pur. Et ça augmente encore la confiance qu'il a en lui et là, et la motivation. En se rendant vers la masjid, vers le lieu de prière, ou pour la dame qui va prier dans la salle où elle prie, il place son niyyah. Ce n'est pas une salat que tu fais juste, je fais kafara, zohar de imam. Ce n'est pas le niya. Ça, c'est le niya formulé, ça. Ça, c'est le niya de paramétrage du namaz que tu vas faire là, maintenant, tout de suite. Ce n'est pas ça, uniquement le niya. Le niya, c'est je fais l'intention que je vais me tenir devant Allah. Ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Je vais me présenter devant lui et je vais faire son adoration. Je vais m'acquitter de mon devoir et le cadeau qu'Allah a accordé au Prophète, la salat. Il place son niya, c'est-à-dire il sait exactement ce qu'il va faire. Je vais un peu plus vite. Quand il commence à salat et quand il dit Allahu Akbar, il ressent le sens de Allahu Akbar. Il ressent la grandeur et la puissance d'Allah. Parce que il a étudié, il a lu des textes, il a assisté à des programmes, il a été à Hidayat Nissa, il a été dans la madrasa pour hommes, Abdullah bin Mas'ud, de l'Atani, ou peu importe les endroits où on dispense de la connaissance, à Sani ou ailleurs, partout dans le monde. Il a appris auprès d'un alim ou d'une apa pour une dame. Al-Azim. Allah est Al-Azim. Et c'est comment comprendre la grandeur d'Allah. On a étudié ça, oui ou non? C'est le premier nom d'Allah qu'on a vu ensemble, bi'idhnillah. Et quand il se présente devant Allah, il dit Allahu Akbar, son cœur frémit. Et il sait c'est quoi la portée. Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Il connaît le Azamatullah et la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. On va un peu plus vite. Son cœur ressent l'amour d'Allah en lisant Thana. Des fois, on ne lit même pas Thana. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Parce qu'on sait que Thana n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, on joue un peu avec la salat et on y va, on fait vite et tout. Alors que le Thana, c'est une introduction. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka. C'est des louanges magnifiques d'Allah Azza wa Jal qui nous ont été enseignées par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où on clame la grandeur d'Allah, on clame notre amour, on atteste notre amour pour Allah et notre soumission à lui. C'est des paroles puissantes. Il y a Laytana. Si seulement j'avais pris le temps de lire un peu le sens du Thana et de connaître chaque nom d'Allah et chaque qualificatif cité, ben je vous promets, si je l'avais fait en amont, quand je lis Thana avant de commencer ma salat, ce serait totalement différent. Je me mets en condition extraordinaire pour m'adresser à Allah et quand je commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin, là c'est magnifique, là c'est la conversation avec Allah qui commence. Et justement, ce croyant-là, il a étudié le hadith Qudsi, où le Prophète nous dit qu'Allah nous a révélé, nous a informé que quand un croyant dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hein, qu'est-ce qu'Allah répond à Hudhayfa? Hamidani Rabbi. Mon serviteur a fait mes louanges. C'est-à-dire qu'il sait qu'en lisant Al-Fatiha, il y a une réponse qui vient de la part d'Allah, même si au même instant, il y a 3 milliards de personnes qui prient, il obtient cette réponse de la part d'Allah. Une mise en condition, une concentration qui va prendre place, c'est exceptionnel. Après, il est 11h07, on devait finir à 11h, je suis désolé. J'avais prévu de vous développer un petit peu ce qu'on ressent en lisant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avec comme mot-clé Hamd et Rabbil Alamin. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que le croyant ressent en lisant Rahman Rahim et en lisant Malik Yawmiddin et ainsi de suite? Mais on a dépassé, donc on va... Cette partie-là, je fais une parenthèse, on garde un développement d'Al-Fatiha pour la semaine prochaine à Saint-Cloutine. Et je pense que l'audio sera également disponible si quelqu'un veut écouter le tafsir d'Al-Fatiha en 60 minutes. ce qui est théoriquement impossible. Mais bien là, on va essayer de le faire. Donc, ce mu'min, il ressent tout ça. Et quand il est dans le ruku', il dit Subhan Rabbi al-Azim. Il étudie al-Azim, la grandeur d'Allah. Il le ressent. Et dans la position la plus difficile, la plus douloureuse de la salah, la plus inconfortable au ruku', et il se sacrifie, il se courbe devant son Seigneur en implorant, en faisant les louanges de celui qui est le magnifique, le majestueux. C'est autre chose, hein. En termes de présence de cœur, en termes de khushu', c'est un autre niveau là, le fait de le ressentir de le ruku'. Quand il se relève, dit Rabbana lakal hamd ou walakal hamd, il y a plusieurs versions variantes, il remercie Allah. Alhamd, c'est des remerciements qui lui a permis de faire la génuflexion devant lui et qui lui permet d'être là. On est là devant Allah, Allah nous écoute, nous entend, nous répond. Il remercie Allah. Et je conclue, quand il va dans le sejda, il lit Subhan Rabbi al-A'la, il est au plus proche du sol, lui. Le plus bas de la terre, c'est ça. Le visage, la partie la plus noble sur le sol. Et il implore et il fait les louanges de celui qui est Al-A'la. Parce que il a étudié aussi, ça on n'a pas vu encore, Hudhayfa, Al-A'la, parmi les noms d'Allah. Sabbihisma Rabbikal Al-A'la. Celui qui est le plus haut, celui qui est élevé. Et il sait qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, je suis au plus proche du sol. Je me reconnais comme étant, je fais partie du néant. Je suis makhlouq, créature. Je ne vaux rien. Et je n'existe que par ordre d'Allah, kun fayakun. Et j'implore le Seigneur des mondes qui est le plus haut. En termes de rendu spirituel, c'est autre chose. Et quand il est dans le sijda, il réalise que la position où on est le plus proche d'Allah, c'est dans la prosternation. Et ce sijda-là, quand il fait le namaz tahajjud, il reste longtemps. Ce n'est pas une fois qu'il dit Subhan Rabbi, il le dit, Mashallah, Allahu Akbar, nombre de fois, parce qu'il aimerait rester accroché à ce sijda et mourir de ce sijda. Qu'Allah nous l'accorde, dites Amin, qu'Allah nous l'accorde. Et permettez-moi, parce que je ne vais pas compléter le programme, ça ne va pas être possible. Mais donc, je vais aller un peu dans le désordre et dire quelques petits trucs qui s'étaient prévus pour la fin. On parle du sijda, on parle des hauts degrés de iman. Je vous donne une action qui est magique, qui est magnifique, qui est exceptionnelle. Sunna Nabawiyya, on en avait parlé l'année dernière. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans ses prosternations dans le tahajjud? Qui connaît le doigt? Ah, Luqman qui a mis en pratique, inshallah. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirra. Bilal avait déjà écrit ça sur la carte, non? Allah m'a refait les dames. Il se brouille là, il ne peut pas arrêter ça. C'est pas chez nous ça? Très, Inch'Allah. Très, Inch'Allah. Donc, ce doua que le prophète lisait dans les prosternations du tahajjud. Oh Allah, pardonne mes péchés. Mais kulla, et je vous promets, faites-le avec cœur. Quand vous dites kulla, il y a une larme qui coule. Ah, c'était pas, le but c'était pas de rimer, hein. S'il y avait une rime, hein. Quand vous dites kulla, ça veut dire tout. Et vous ressentez, ya Allah, tout, mais. Il y a beaucoup. Mais je suis proche d'Allah dans le sijda. Je suis dans le qiyamul layl, dans le tahajjud de la nuit. Allah est rahman rahim. Même ce kulla, tout ça là, Allah est capable de tout pardonner. Diqqahu wa jilahu. On va aller plus vite. Les petits péchés, les péchés apparents, les péchés cachés, les péchés graves. Oh Allah, pardonne-moi tout. Et je vous promets, si quand la foi s'installe dans le cœur, et c'est à nous de le faire installer, entre autres par ce genre de adhkar, et en y pensant fermement, avec concentration, vous le lisez une fois, deux fois, 10 fois, vous faites un sijda qui dure 5 minutes, et vous ressentez cette grandeur d'Allah, et cette soumission à Allah, et c'est là que vous goûtez à la halawa de l'iman. C'est là qu'on ressent c'est quoi la douceur de la foi. Il y a quelque chose qui commence à s'installer, qu'on n'avait peut-être jamais ressenti, et qu'on n'y avait même pas, on n'y avait même pas pensé. Je referme la parenthèse. Maintenant je conclue. Comment imprégner son cœur et ses actions de foi? On a dressé un tableau un peu sombre de notre situation. On vient de dresser un tableau qui nous fait un peu miroiter, quelque chose de très beau. C'est quoi le summum de la foi? C'est quoi une salat accomplie avec les qualités qu'on aimerait réunir? Maintenant, comment faire? Comment imprégner son cœur et ses actions de piété? Il y en a qui se disent, oui, mais il dit ça quand il reste 5 minutes, enfin quand il reste plus 5 minutes non plus. C'est ça qu'il fallait développer. Non, du tout. J'avais nullement l'intention de développer parce que ce que je vais dire, c'est pas à moi de développer, c'est à vous de développer. C'est-à-dire, c'est à nous tous de développer. On vous donne des pistes, des actions qu'il faudra faire à partir d'aujourd'hui. Sans les faits, et on arrive, comme cette personne, qui trouve le khushu dans la salah. Soit on se dit que non, ben, nawa après, plus tard, voilà, non, ben, m'a pas beaucoup de temps, ça, elle est bon pour ben jeune. Et tous les excuses que Shaitan nous dit. Shaitan a plein de petites cartes, il dit non, dis ça. Donc, soit on écoute Shaitan, on écoute notre cœur, notre nafs, peu importe, et on fait pas, et on reste pareil. 2022, 2030, 2040, jusqu'à ce qu'on meure, et puis on se rend compte que le jour de Qiyama, qu'il y avait eu des manquements, et j'ai pas comblé ces manquements. Donc là, ça nous appartient. Dans le sens où on demande à Allah de nous guider. Et on espère qu'Allah nous guidera, nous donnera la possibilité de les faire. Et je me mets en tête de liste de ceux qui aimeraient commencer à les appliquer sérieusement. Je cite 7 points. Commencez par demander Tawbah pour les péchés. Oui, mais ça nous connaît, ça nous fait ça. Non. Tawbatun Nasuha. Avec présence de cœur. Et le Tawbatun Nasuha doit émerger du cœur absolu. Là, il y a un travail à faire sur toi. Et les conditions, c'est regretter le péché. Les remords, ça se passe où? Les remords, c'est pas une formule de remords que tu dois lire. C'est pas tu fais un katam, tu demandes pardon, c'est le non, les remords, c'est dedans. C'est être persuadé qu'on a mal agi avec Allah. C'est être capable de se repositionner. Je suis créature d'Allah. J'ai un passé, j'ai un vécu. Il me reste peu de temps à vivre. Allah seul le sait. J'ai vraiment désobéi à mon Seigneur. Et donc, je regrette. Ce que je fais, c'est mal. Les savants disent également détester le péché. Détester le péché, je donne un exemple. Si c'est le zina, par exemple, parce que c'est l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, si c'est l'adultère, ou si c'est d'autres choses mauvaises, d'accord? Ben, réaliser que c'était grave, et c'était inacceptable, ça, c'était impossible, ça, qu'un croyant accomplisse quelque chose comme ça. Et de désobéir à Allah délibérément, sans haya, sans pudeur, sans crainte du regard d'Allah, sans imaginer les conséquences. Et là, le péché doit être détestable à tes yeux. Pour que réellement tu t'en éloignes et tu n'en veux plus du tout, jamais de la vie. Et tu regrettes, mais amèrement, mais ces remords, tu les orientes vers Allah, en sachant que Allah voit tes regrets sincères et donc Allah voit ta sincérité. Là, les conditions sont réunies. Et donc là, tu peux faire l'intention ferme de ne plus jamais recommencer ce péché. Là, le cœur y est. Là, le taouba vient du cœur. Si le taouba vient des lèvres et de la langue uniquement, même si vous lisez le Sayyid al-Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, connaissez le Sayyid al-Istighfar, la formule la plus complète, la meilleure pour demander pardon à Allah. Si vous ne faites que le lire, mais que le cœur ne pense pas, ça ne sert à rien. Et Allah est le seul juge, qu'Allah pardonne si j'ai exagéré. Et Allah connaît nos cœurs. Parce que la demande de pardon, ce n'est pas une formule à lire. C'est pas une parole à prononcer. Autrement, ce serait une formule magique. Il n'y a pas de formule magique en dîn. C'est pas que tu prononces cette formule et il y a quelque chose qui se passe. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que ton cœur doit en être convaincu. Tout le monde suit là. Donc, que ton cœur regrette, déteste ses péchés et les mois, les années passées de le péché, et tu promets à ton Seigneur de ne plus jamais, jamais recommencer. Et s'il y a des manquements envers des gens, je dois de l'argent, ou j'ai vexé quelqu'un, je vais réparer les erreurs, mais ça c'est une parenthèse. Là on parle de relation entre moi et Allah. Là, le tawbah est accepté par Allah. Je commence par ça. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que ça, c'est la clé. C'est la clé, mais c'est en même temps la serrure, en fait. La serrure du cœur, le verrou, c'est les péchés. Le cœur en est noir, à chaque péché, nuqtatun sauda. Et quand le cœur est noir, le Coran ne rentre pas, le zikrullah ne rentre pas, les douas ne passent pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça devient hermétique totalement. Tu peux aller faire la umra, faire doua, sauf si Allah décide de débloquer ton cœur, c'est ce que nous souhaitons. Hein. Je ne dis pas qu'on est condamné, mais selon les textes, le cœur n'est plus réceptif. Ben, c'est comme sur le plan biologique, on a des artères bouchées, ben, ça passe plus. Il faut faire un truc, corona, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, et ainsi de suite, bref, et il faut déboucher. Mais le cœur est rempli et bouché de péchés, tu ne l'évacues pas, aucune lumière ne va pénétrer. D'accord? Donc, commencez par un tawbatun nasuha, c'est le verrou, mais le tawbah, c'est la clé. Les péchés, c'est le verrou, le tawbah, c'est la clé. Deuxièmement, je demande du'a, tawfiq et kaboul. Parce que, on le lit bien, Wayyaka Nasta'in. Le tafsir de Wayyaka Nasta'in, on cherche de l'aide auprès d'Allah en priorité pour qu'il nous permette de l'adorer correctement. C'est ça le sens premier de Wayyaka Nasta'in. C'est uniquement Allah qui peut me permettre de revenir sur le droit chemin, de revenir sur le droit chemin et d'y rester fermement jusqu'à la mort. Donc, demandez à Allah. Je demande à Allah plein de choses. Ya Allah, je veux réussir mes études, ou je veux une épouse vertueuse, je veux des enfants, accorde la santé, la réussite. C'est bien. Tu demandes à Allah des choix de ce dunya. On peut demander. Je veux telle voiture, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais aller en vacances, j'aimerais avoir la baraka de mes biens. Demandez, demandez. On a dit, même s'il est lassé de tes savates, de tes chaussures, c'est lassé, c'est un terme, hein, si la corde qui attache tes chaussures se casse, demande à Allah son aide. Hadith pour montrer comment on doit tout demander à Allah Azza wa Jal. Je demande plein de choix de dunya, mais il est important de demander pour notre iman. D'ailleurs, il dit, c'est une demande du cœur, ça. Guide-moi vers le droit chemin. Le doua qu'on fait le plus souvent dans une vie. Et donc, on disait, demande à Allah, oh Allah, Allah mahdi qalbi, oh Allah, guide mon cœur, guide-moi vers le droit chemin. Ya Allah, donne-moi la possibilité de retrouver le droit chemin, d'enlève les manquements qu'il y a dans mon cœur, tel manquement, ainsi de suite. Idéalement, demandez ce doua dès les tiers de la nuit. On se réveille en ce moment, alhamdoulilah, et au moment de rompre le jeûne. On a un doua qui est, au moins un doua qui est accepté par Allah, quand on casse karim. D'accord? Mais là aussi, quand on demande doua, le faire avec conviction, avec présence de cœur. Hadith que le prophète m'a dit, « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. » Demandez à Allah, mais avec conviction qu'il va vous accepter. « Wa'alamu anna Allah la yastajibu doua. » Sachez qu'Allah n'accepte pas le doua. Sachez qu'Allah n'accepte pas le doua de quelqu'un min qalbin ghafil, de quelqu'un qui a le cœur insouciant. Tu fais doua, même si tu connais, il y a des gens qui connaissent des doigts par cœur, mais extraordinaire, c'est impressionnant. Des doigts qui durent 20 minutes, ils connaissent tout par cœur. Maintenant, c'est pas une question de lire de beaux doigts, même si c'est masnoun, mais c'est de ressentir le doigt. Et être persuadé qu'Allah va t'exaucer, va t'accepter, et Allah est capable de te l'accorder. Troisièmement, on va un peu plus vite. La clé. Ça, on ne peut pas se permettre de quitter ce majlis et de quitter ce mois de Ramadan sans faire le niya, de travailler ce point. Connaître Al-Ma'boud. Al-Ma'boud, c'est celui qu'on adore. C'est notre Seigneur. La Ma'boud abihaqin illallah. Le seul qui mérite d'être adoré. Notre première erreur qui fait qu'il y a un dysfonctionnement, le déséquilibre dont on parlait tout à l'heure, où le corps adore Allah, c'est parce qu'on a appris à adorer Allah. Parce que j'ai pris à la madrasa. Parce que mes parents m'ont appris à prier. Et je vois tout le monde prier, donc je prie. Mais dedans, il n'y a aucune conviction. C'est parce que je n'ai pas développé Amantu Billah. Premier point du calément, comme on dit. Amantu Billah, il n'est pas développé. Je sais qu'Allah est unique, mais je ne connais rien d'autre de mon Seigneur. Étudiez les noms d'Allah Azza wa Jal. Dans les épreuves, ça me sera utile. Dans ma demande de pardon, ça me sera utile. Dans le besoin, quand on subit une injustice, on va se rappeler qu'Allah est Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, et ainsi de suite. J'avais prévu de développer 10 noms d'Allah, mais rapidement, mais c'est pas possible. On connaît Allah, on l'adore correctement. On ne connaît pas Allah, on ne peut pas l'adorer correctement. Ça, c'est une règle qui est très claire. Si je ne connais pas Allah, je ne connais pas mon Seigneur par ses noms et ses attributs, il est impossible que la réalité de la foi et que l'amour d'Allah pénètre mon cœur. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas vraiment. Et ça fait partie des conditions de la foi que le croyant, il connaisse son Seigneur. Donc, dès maintenant, qu'Allah nous accepte pour ce cheminement spirituel, que j'ai 25 ans, 40 ans, 65 ans, c'est pas fini. Tant qu'il y a un souffle de vie. Adissamna, quel âge? 88, hein, pensez pas, mashallah. Même j'ai 88 ans. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a un jour dans mon rizq, dans ma subsistance, je peux encore faire ce pas vers Allah. Allons vers un alim, ou une apa, si pour une dame, où on achète un livre, il y a d'excellents ouvrages traduits en français, excellentes traductions, où on explique les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Je vous promets, je vous donne ma parole, c'est un renouveau spirituel, mais total. On passe dans un autre monde, c'est un autre niveau là. Quand le croyant connaît, ça veut dire quoi? Rahman, Rahim, Karim, Ghani, Afouun, Ghafour et les noms d'Allah. Quand tu fais ta salah, quand tu fais tes doigts et ainsi de suite, tu sais les qualités, tu connais, tu as un aperçu au moins des qualités de ton Seigneur, la relation de Ibadah n'est plus du tout la même. Je vous promets. Donc ça, c'est essentiel. Et ça, c'est l'origine de tous mes problèmes spirituels, de tous mes manquements. Je ne connais pas mon Seigneur. Donc, mon adoration, elle n'est que mécanique. Je ne fais que répéter un gestuel. Et qu'Allah ait pitié de nous. Et qu'il accepte tout ce que je fais jusqu'à maintenant. Mais pas normal que je ne connaisse pas mon Seigneur. Quatrième point, Et c'est la deuxième chose la plus importante, replacer le Coran au centre de notre vie. C'est ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure. Pas lire beaucoup plus le Coran, non. Si on lit plus, c'est bien aussi. Mais on réalise qu'il n'y a pas de guidé sans le Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ Huda, c'est Hidayah. Et Kitab, c'est quel Kitab? Coran. Le Coran, c'est la Hidayah للمتقين, pour nous. Mes chers frères et sœurs, erreur monumentale que de penser qu'on peut être quelqu'un de religieux si on n'a pas un lien régulier, journalier, au quotidien, avec le Coran, mais pas lié à Yassine Tabarakalladhi, ça continue à le faire, avec le sens, le ma'ani du Coran. Et là, on va se dire que oui, mais je ne suis pas un talib al-ilm, je ne vais pas aller à Darul Uloum ou à l'université, je ne vais pas aller à Tunisie tous les jours. Oui, si tu peux, vas-y, mashallah, c'est bien. Mais au moins que tu aies un livre de tafsir à la maison. Sa'di, Ibn Kathir. Il y a Tafsir al-Muyassar qui est traduit aussi. Il y a de bons ouvrages. Que chaque jour, que régulièrement, allez, c'est pas chaque jour, mais régulièrement, que tu étudies le sens de tous ces ya ayyuhalladina amanu qui a de le Coran. Je suis incapable de vous dire il y en a combien. C'est pas normal. C'est pas normal. Que je ne comprenne jamais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu après ya ayyuhalladina amanu, oh vous qui avez la foi. C'est pas possible que j'ai le Coran dans mon cœur, je n'ai aucune compréhension du moindre verset. C'est pas normal que j'ai 45 ans et je prie des le imam tout le temps et que je prie moi-même et que je ne sais pas différencier Iyyaka na'budu de Iyyaka nasta'in. C'est pas normal, c'est pas cohérent. Quand